Bousquet, à la gauche, Estelle Vanier, Jean-Luc Marc-Castel, Fabien Fernandez. Un des titres divers pour des bouquins que vous avez aimés et nous aussi, et qui parle en partie, en tout, en partie d'animaux. Alors, les animaux dans la littérature, ben, c'est pas quelque chose de très nouveau, puisque toutes les fables de La Fontaine, et avant lui, d'Ésope, parlent d'animaux. Être classique que moderne, au fond, la part belle aux animaux, que ce soit pour ce qu'ils sont, les animaux, ou pour ce qu'ils représentent, c'est évidemment le phénomène de l'anthropomorphisme. Dans la littérature contemporaine, il y en a toujours, avec l'affaire des animaux de George Orwell, vous vous rappelez le Watership Down de Richard Adams, pour retourner un peu plus loin, le livre de la jungle de Kipling, Moby Dick de Melville, M pour ma belle de Helen MacDonald, qui met en scène une jeune fille qui est née à Fontaine pour retrouver le sens de la vie. Il était dès lors un peu évident pour vous de mettre des animaux en scène. On commence par Charlotte.
Oui, en fait, en essayant de réfléchir tout à l'heure à cette intitulé bizarre, mais qu'est-ce que je vais pouvoir raconter? Parce que les animaux ne sont pas toujours nos amis. Oui, c'est vrai, on est rarement les leurs. Et moi, j'ai des animaux dans quasiment tous mes récits. Même, il me semble, ma trilogie sont des, il y a des animaux. Récemment, j'ai écrit pour l'anthologie des imaginales une nouvelle qui s'appelle Les voix des renards pâles, donc, qui parle de Fennec, de capacité de divination dans un monde. Assez rare de voir des animaux magiciens. Et puis le dernier ours, effectivement, que, oui, c'est là. Dans le dernier ours, donc, qui est un thriller d'anticipation, donc je parle du dernier ours, Nelly Branuvier. Et en fait, Branuvier est un personnage, des personnages principaux de mon roman. Alors, à la fois, comme ce que tu disais sur le fait que ce soit des. Sur les animaux qui étaient représentations et symboles. Et en fait.
C'est l'anthropomorphisme.
Ah oui, alors là, non, enfin l'anthropomorphisme, en même temps, c'est encore un autre débat, c'est un peu particulier l'anthropomorphisme, mais en tout cas, il est là en tant que personne, parce que pour moi, les animaux sont aussi des personnes. Et là, en l'occurrence, c'est vraiment une des deux figures principales du récit, puisqu'en fait, c'est vraiment l'idée, au départ, c'est comme de sauver sa peau.
On va rappeler pour ceux qui n'ont pas lu le dernier ours, c'est un ours qui se trouve dans un zoo avec une soigneuse qui s'appelle Karen. Il est le dernier ours qui est né hors captivité et Karen en a marre de voir comment les autorités de ce zoo traitent cet animal, lui font subir des expériences. Elle le libère, elle va avec lui jusqu'au Grand Nord, c'est ça? C'est le titre du premier.
Voilà, la fête, c'est qu'elle la marche. Et effectivement, là, c'est plus la transformation.
Donc, racontons l'histoire aussi, Estelle, mais vas-y, raconte un peu quelques mots.
Elle est une voix jeune, je viens de le dire. Si je ne le dis pas ici, si, je ne sais pas quand est-ce que je le dirai. Elle a 18 ans, elle est issue d'une meute de loups-garous, on va dire, de morse. Elle a grandi vraiment dans une meute assez sectaire, très conservatrice. Elle a été élevée par son grand-père, toujours dans cet esprit. Sauf que, contrairement au sein, elle n'est pas capable de se transformer, ce qui est vu comme une faiblesse. Elle se fait persécuter par les siens. et donc exilée. Et là, elle doit partir découvrir un peu le monde et affronter la réalité. Par là, j'entends surtout les gens. Je pense qu'il est dur aussi dans la vie, c'est de savoir à qui se fier. Et c'est ce qu'elle va devoir déterminer en fait au cours de son aventure.
Fabien Fernandez est lui plutôt, au départ, illustrateur, mais voilà qu'il se met aussi à l'écrire sous l'influence de sa bonne fréquentation. Et donc, dans Cœur sauvage, il y a une présence animale.
Ah, quelque part, ça rejoindrait presque le titre de la table d'aujourd'hui. C'est l'animal est présenté comme une sorte d'adversité, comme vraiment le pendant sauvage dans l'histoire. Ça va se révéler être plus riche que ça, puisque le héros principal va se retrouver nez à nez avec ce tigre et comprendre petit à petit qu'il y a plus que du danger et qu'il y aura peut-être même un lien. Et on part sur des histoires un peu chamaniques.
D'accord. Jean-Luc, alors, toi tu es choisi ici, pourquoi ? Pour Louis Gallo, l'histoire de.
À comploter, à acquérir du territoire aussi. Je trouvais ça très intéressant, en fait, justement, de développer ça.
Charlotte, les animaux un peu partout dans tes livres, il y a le dernier ours, c'est plutôt le héros, l'autre héros du roman avec Karen. Pourquoi cette envie de mettre en scène?
Il y a des animaux qui s'adaptent énormément à notre à
fait, c'est aussi presque le résultat d'une quête initiatique. Ce tigre est lié aussi à toute une culture qui lui est propre. Donc, c'est-à-dire, le tigre de l'amour est plutôt dans le sud de la Russie. C'est un peu, je suis pas très bon en géographie sur la Sud, de la Sibérie, mais c'est un peu découpé. Ça descend aussi sur l'Asie. Et ce qui m'a intéressé aussi dans ce côté tigre de l'amour, qui est une bête, vraiment l'animal vraiment félin et bestial, tel qu'il est représenté à travers les médias et tout ça, c'est aussi un tapis de sol parce que il est braconné. Il a un peu ils sont, je crois, à l'heure actuelle, à peu près 400 à survivre. Et on les appelle les 4x4 là-bas. Parce qu'en fait, quand on tue un tigre, on récupère sa peau, ça paraît payer un 4x4. Donc, ça donne aussi une autre dimension à l'animal. Et son côté survivant et adaptable fait que le héros, avec ses liens, il trouve donc un miroir, mais aussi une sorte de prolongation. Ce qu'on retrouvera aussi dans quelque part dans mon prochain roman, ou dans Détroit. En fait, mon personnage principal, lui, va aussi avoir une sorte de miroir animal à travers un chien, un pitbull, qui lui va plutôt être son extension et salvatrice.
Estelle, est-ce que les morphes dont tu parles, c'est à la fois la part animale qui est en nous, évidemment, et la part humaine, mais tu avais besoin de cela pour mettre quoi en scène, pour parler un peu plus de, pour aller au plus profond du totémisme, de l'assimilation de l'homme et de l'animal, et pourquoi avoir choisi des loups?
Je vais répondre d'abord à la dernière question. Pourquoi les loups? Parce que je les adore. Je t'ai oublié aussi d'écrire sur les animaux. Pourquoi? Parce que je les aime tous. Je pense que j'ai passé une partie de mon enfance devant des documentaires animaliers. Dès que j'ai le temps, je le fais encore. Là où je prends plaisir à écrire, c'est quand je fais des recherches sur les animaux. Parce qu'il n'y a pas que des loups. En fait, j'ai aussi des renards, un renard, un ours. Je ne vais pas trop parler de ceux qui sont dans le tome 2 pour ne pas spoiler le tome 1. Mais je ne sais pas, comme disait Charlotte, ils ont la place dans notre monde, il faut qu'on en parle, qu'on les mette en avant. On a tendance à les oublier, à les considérer vraiment comme des animaux en oubliant qu'on en est nous-mêmes. Et je ne sais pas si on arrive à amener l'amour des animaux comme ça aux gens qui lisent, bah, c'est énorme à se rappeler qu'ils existent, comme pour les tigres, qui sont clairement en voie d'extinction, qui sont chassés, traqués pour tout et n'importe quoi. Pour des baumes, des superstitions, on oublie l'animal majestueux qu'il y a derrière et qu'il a bien plus sa place parfois que nous sur Terre. Et c'est ça aussi que j'ai envie quelque part d'amener dans le livre, parce que c'est pas ce dont je traite particulièrement, mais c'est vraiment l'urban fantasy, on est là pour les instants primaires, dans l'action, dans les sentiments, dans les relations entre les différents personnages. Mais comme je disais, si ça permet de ramener ce respect-là envers l'animal, c'est gagné, quoi.
Jean-Luc, le galop, c'est aussi cette mise en abîme de la totémisation.
Pour moi, c'est la part d'animalité qui est en nous. On n'a pas peur, non, parce que dans mon livre, ils font surgir la peur animale qui tombe, et ça se matérialise de manière, on va dire, presque très visuelle, parce que c'est un conte. C'est-à-dire que mon héros, au départ, son pelage est gris, et on va lui expliquer un jour que voilà, si jamais, il y a plusieurs sortes de galons, en quelque sorte, si jamais il franchit une certaine limite, il se met à dévorer de la chair humaine. En ce cas-là, il va franchir donc une limite, son pelage va devenir moins, il sera tout le temps dominé par une rage, une colère insatiable. Sous forme humaine, il va tourner et virer comme on le met en cage. Voilà, que si au contraire, donc il se tient plutôt à quatre pattes, et au contraire, que s'il choisit l'autre voie, donc après, voilà, son pelage deviendra blanc, mais est-ce que c'est ça qu'il faut viser finalement, se tenir droit, et voilà, vraiment d'apparence humaine, mais est-ce que c'est ça qu'il recherche ou pas, c'est tout le cheminement de mon héros de trouver sa place entre l'ombre et la lumière. 6 jours sans tête. C'est un animal extraordinaire. Il bouge encore, hein, il bouge, il a de sorte qu'il finit par mourir de faim, qu'il coupe son nez. Donc, Mais ça ne te fait pas peur. C'est un peu inquiétant, mais bon, finalement, on finit avec eux, hein, c'est beaucoup moins souvent. Hein, voilà, ils sont partout, c'est assez extraordinaire. On a quand même inventé l'insecticide. Le cafard résiste à l'insecticide aussi, et aux radiations.
Et ils auront.
Ils auront.
Fabien parlait tout à l'heure de chamanisme. Est-ce que dans vos récits, ça va aussi loin que ça? Ça va à la totale assimilation de l'être humain avec un totem animal?
Il n'y a pas de totale assimilation, que ce soit dans Cœur sauvage ou même à la limite dans mon jeu de rôle Islandillard qui parle de chamanisme de manière beaucoup plus marquée. Il y a souvent un état de fusion où il coexiste entre l'esprit animal, qui n'est pas forcément animal dans le terme bestial, enfin, c'est vraiment l'entité animale, et tout ce que cela connote pour chaque animal. Juste pour donner un exemple, si on parle du totem de la chouette, on a plutôt tendance à voir ses sens et ce genre de choses. De l'ours, plutôt sa sagesse ou sa force, enfin, c'est des clichés un peu comme ça qui sont un peu répandus, mais qu'on trouve justement dans les contes et les légendes. Et du coup, il n'y a pas de. L'un ne domine pas l'autre, et les deux coexistent de manière distincte et assez fusionnelle.
Dans le dernier ours, il y a aussi une fusion entre les reines et son ours.
Il y a en fait une fusion qui est double. Une fusion qui est simplement due au fait que la reine est issue de manipulation génétique et a en elle des gènes d'ours, qui était le jumeau de l'ânerie. Et l'autre qui est tout simplement le fait qu'elle partage son existence depuis tellement longtemps qu'en fait ils sont âmes sœurs. Et en fait, ce qui était intéressant, c'était vraiment de travailler sur l'hybridation physique et sur cette espèce d'absence de frontière, ou en tout cas de. Oui, je ne sais pas si c'est vraiment une fusion, parce que les deux. C'est une fusion, mais tu as tout à fait raison. Et donc, une fusion mentale et qui. Parce que les deux finissent par ressentir les mêmes choses, par. J'ai envie de dire que Karen existe à travers Anuri aussi bien que Anuri existe au travers de Karen, mais je crois que c'est aussi. Ah oui, effectivement. Et en fait, c'est. Voilà. Donc, il y a
juste plus. En termes de fusion, je pense plutôt à ton livre La marque de la bête. Où là, on a vraiment le côté bestial et peut-être sombre de les. Qui tente de fusionner avec.
Alors, oui, et puis qui est surnaturel. Alors, la marque de la bête, c'est une réécriture de peau d'âne qui est parue il y a quelques années. Et effectivement, donc, là, au lieu d'avoir une peau d'âne, elle a une peau de moroc, qui est une espèce d'hybride entre un ours géant, un loup, oui, presque une créature, j'ai envie de dire, oui, un métamorphe comme un loup-garou. C'est une bête assez démoniaque. Et en fait, ça va être cette bête-là qui la protège, et qui va la protéger lors de la. Lui donner le courage de tuer son père et de fuir dans la forêt, mais qui effectivement qui est très exigeante, très fusionnelle, et très jalouse, et très primaire, mais pas forcément du tout dans un sens animal, c'est juste une question de possessivité. Tu parlais tout à l'heure de justement de donner une place à l'animal et de réapprendre aux gens, ou d'apprendre aux gens ce qu'ils sont. Je pense notamment en fait que les animaux ont des comportements très très altruistes, et on a des vidéos qui tournent de plus en plus sur YouTube.
réciprocité de l'animal et de quoi qu'il engendrait, en plus ajouter qu'il pouvait être la perversité de l'homme, quoi, de commettre des meurtres simplement par plaisir.
Attention, que ce soit vraiment la peur de l'animal et pas la peur qu'on a donnée de l'animal par notamment l'instrumentalisation de l'Église ou autre qui pointe du doigt l'animal sauvage pour rester dans la communauté et ce genre de choses.
Oui, mais la façon dont aujourd'hui la réintroduction du loup ou du lynx dans certaines régions françaises, espagnoles, etc., est considérée par certains, ça part du même principe, quoi. Il y avait une exclusion d'Estelle pour pouvoir écrire sur ces communautés de morphes où donc le loup apparaît dans sa majesté. Il faut beaucoup étudier, beaucoup faire des recherches sur les loups, sur les animaux.
J'en ai fait beaucoup, mais je ne suis vraiment pas sûr de pouvoir utiliser même pas 15%, je pense, de ce que j'ai appris. Je pense déjà que c'est important quand même de savoir un minimum de quoi on parle. Et puis c'est passionnant, quoi. Une fois qu'on est lancé dans les recherches, on ne s'arrête plus, on se dit tiens, il y a ça, ils font ça. C'est passionnant, j'ai appris énormément de choses en faisant des recherches pour l'écriture. Mais après, à replacer dans l'histoire, c'est pas forcément intéressant non plus. On les arrange un petit peu, on parle d'exclusion entre l'homme et l'animal. Là, c'est ça, c'est la limite en fait de l'utilité de mes recherches. C'est qu'à un moment, il y a la part de l'être humain qui, de toute façon, prend le dessus. Donc, la société est de toute manière organisée un peu différemment. Et donc, je ne peux pas reproduire vraiment la part animale.
Mais sur l'autre, pour l'ours, il fallait bien étudier, savoir comment se comportait un ours.
Les deux micros. Oui, en fait, je m'intéresse beaucoup à Estelle, en fait, énormément à l'éthologie et au comportement animaux. Leur comportement et à la manière dont les hommes étudient les animaux selon leur pays d'origine et dans l'histoire. Donc voilà, ça c'était pour la première chose. Après, c'était aussi au niveau symbolique. Et vraiment, ce qui m'a été plus difficile, moi, dans le dernier ours, c'était pas de me mettre dans la peau de l'ours et de leur faire des recherches sur les ours, parce que globalement ça va. Mais ça a été de me plonger dans la culture inuite qui est complètement étrangère à la nôtre. Et là, c'était vraiment mon pas. C'était vraiment la confrontation à l'altérité pour moi qui est là. Donc, je me sentais plus ours qu'inuite.
Et Fabien s'est senti tigre de Sibérie?
Pas dans la version tapis. Non, en fait, c'est pareil en me documentant sur le tigre qui est à la base dans l'histoire. Était un outil narratif, presque un prétexte. Je cherchais un animal miroir ou un animal adversaire. Après, on se documente et en effet, on tombe sur des choses qui sont autant magiques. Quand on voit des documentaires sur les tigres de Sibérie, des tigres de l'amour, que horrible quand on voit en effet ce que certains en font. Le tigre, mais les ours, c'est pareil. Quoi. L'intérêt de récupérer la bile d'ours pour en faire je ne sais quel baume de virilité, on va dire, pour être gentil, c'est totalement aberrant et totalement. Bon, c'est vrai que c'est pas forcément non plus dans notre culture occidentale directement, mais ça n'empêche pas que si on considère qu'il y a les hommes et les animaux, et ben, quelle que soit la culture, on est les hommes. Considérer les animaux de la même façon. J'entends par là, je suis français, si on considère que dans le cliché, certains Asiatiques font ces éviscérations pour quelques potions, ben on est autant responsable que si on laisse faire, et c'est horrible de voir ça se faire. Quelque part, j'ai préféré quand même les documentaires où on observe les tigres de l'amour via la haute technologie, on envoie des drones et on les observe. D'ailleurs, une bonne utilité du drone, on leur fiche la paix jusqu'au moment où, évidemment, c'est un tigre, il a un petit peu quelque part un côté chat et puis il peut jouer et puis il saute plus haut qu'un chat, donc le drone fait 3 secondes et demie.
J'aimerais que si des recherches sur les sociétés de loup ou les sociétés de. À la fin, pas tellement sur les sociétés de loups, parce que.
parce que probablement je suis assez crédible, mais on n'a jamais, fait ce genre de remarque.
Non, je pense que peut-être que c'est aussi la façon de l'écrire, parce qu'on considère les animaux comme des personnages. Donc du coup, on projette aussi des émotions. Et on aurait peut-être plutôt tendance à avoir des sentiments, par exemple, pour ce tigre, hein, plutôt qu'à se demander s'il court correctement ou si il a le bon poil à la bonne période, quoi, enfin, quelque chose comme ça.
Il y a toujours des lecteurs chicaneurs.
Peut-être qu'on les trouve plus dans un cadre peut-être historique ou peut-être plus du côté de Jean-Luc sur les insectes ou des gens qui vont être petits, plus pointus sur ce genre de sujet.
Je crois que moi, les seules remarques que j'ai pu avoir, mais c'était pas des lecteurs, c'était la première éditrice du dernier ours qui ne comprenait pas pourquoi je considérais le point de vue de Mary comme intéressant. Et là, c'était vraiment une réaction spéciste et c'était vraiment le fait de dire mais ce n'est qu'un animal. Et je pense que c'est plutôt ce genre de réaction que j'ai pu avoir, mais c'est tout après d'un point de vue lecteur. Non, on ne m'a jamais rien dit du tout.
Non, moi, je n'ai pas eu de remarque. Mais voilà, tout va bien. Mais ils ont fait vraiment un vrai capital. Vos livres, Dernier Ours, etc., sont des livres de prise de position écologique. Il y a derrière l'amusement, le divertissement que vous donnez aux lecteurs, une mise en garde, une prise de position politique.
Alors oui, clairement, en fait, le dernier mot, c'est vraiment un roman d'anticipation écologique, et j'en parlais ce matin à la conférence avec Pierre Bordage. C'est quelque chose, on est aujourd'hui dans la centaine, dans la sixième extinction, l'extinction des espèces, en 150 ans, et par le fait de l'homme, mais l'industrialisation et la pollution, on a perdu, je pense, quasiment 50% des espèces vivant sur Terre. Moi, j'en étais resté il y a 4 ans à 40%, mais je crois que les chiffres ont vraiment très très rapidement augmenté. On est dans un monde où les océans, les eaux des océans montent. Et où on est confronté à une logique économique mondiale qui vise le profit à court terme, qui vise l'exploitation, donc l'exploitation des ressources, ressources de la terre, ressources humaines, puisque maintenant les gens sont comme considérés en gros comme des numéros très très vite remplaçables, et voilà, et où l'animal est également considéré comme un truc, aux fermes des midrash, aux élevages industriels. Et c'est ça que je trouve absolument dramatique. Et j'ai l'impression que le dernier ours parle de ça, alors pas de forme industrielle, mais vraiment de réchauffement climatique et de ce qui est en train de se passer et de ce qui va se passer si on ne réagit pas très très vite, enfin, ou qui se passera peut-être, mais qu'on peut en tout cas un peu endiguer. Et je me rends compte que dans la plupart de mes romans, je parle en tout cas, il y a un engagement écologique et politique et aussi antispéciste, puisqu'en donnant la parole aux animaux, finalement, on leur donne aussi une place de personnes qui devraient encore discuter dans notre société, mais tout simplement parce qu'il y a une question d'éducation et une question de logique économique. Ce qui fait que c'est aussi quand même beaucoup plus simple de considérer, par exemple, un cheval qui approche de la retraite comme de la viande disponible sur pied plutôt que comme un cheval qui a quand même travaillé toute sa vie dans un club et qui mériterait peut-être d'aller au prix. Voilà, c'est toutes ces choses qui font que oui, j'ai l'impression d'être la littérature engagée. Mais j'ai pas eu de choses, voilà, je suis très contente.
Alors oui, la réponse est oui. La version longue, c'est moins prononcé dans le cœur sauvage. En fait, on va parler de déforestation, on va pas forcément parler du braconnage directement. Et il se trouve que le point de départ du récit, c'est les parents du héros. Le père, lui, passe son temps sur sa plateforme pétrolière et se désintéresse de son fils, et sa belle-mère a un appétit pour la richesse et le bien personnel. Et le personnage, lui, va traverser toute la Russie pour des valeurs qui sont plus éthiques quelque part et plus écologiques, donc oui, de ce côté-là. Et puis là, je suis en train d'écrire un roman qui est une période donc post-crise juste en crise de 29 dans le sud des États-Unis, c'est une grande tempête de sable qui entoure un vagé, qui crée que par là, j'ai peut-être un langage plus apaisé que Charlotte sur le sujet, mais je pense qu'on a les mêmes fonds écologiques sur le sujet. Et juste pour conclure, je pense qu'il m'est venu une image sur la question tout à l'heure, sur la fusion entre l'homme, la femme, et l'animal. Mais je pense qu'on a des auteurs, et l'auteur est peut-être la fusion des deux.
Est-elle la société de loups, même s'ils sont garous, c'est aussi un acte posé, quelque chose de, entre guillemets, politique?
Non, je pense que l'exil, c'est vraiment un livre pour le divertissement. Et comme je le disais tout à l'heure, ce serait plus politique sûr que non. Écologique, ce serait la part bonus si les gens s'intéressent aux animaux. Une fois qu'on s'y intéresse, je pense qu'on les aime de toute façon. Et voilà, si ça pousse des gens à regarder plus loin, alors c'est tout bénef. Mais c'est vrai que c'est pas le but du livre. C'est pas le but premier.
Non, pas forcément. Enfin, le galop, etc. Je crois qu'ils sont tellement engagés. Dans Prairie, il est question à un moment donné de justement, à leur petit niveau, juste, ils sont dans une prairie et où il y a un petit ruisseau. Et de l'autre côté, il y a une grosse fourmilière. Moi, je suis présent, les fourmilières de l'autre côté du ruisseau. Et malheureusement, le ruisseau, petit à petit, comme tous les ans, il fait de plus en plus chaud, le ruisseau est en train de s'assécher. Et donc, les fourmis commencent à pouvoir passer. Et du coup, viennent du côté des humains. Et ça pose un certain nombre de problèmes. Donc, il y a un petit peu d'écologie là. Et donc, on y arrive, là, c'est carrément. Mais là, par contre, c'est autre chose, c'est que le climat change complètement. Et l'homme ne peut rien faire. Il est obligé de composer avec. C'est-à-dire que ce qu'il y a, c'est qu'à chaque fois, on nous dit, voilà, si on fait ça, on va pouvoir sauver, etc. D'ailleurs, on subit. Le plus humain subit pour rien changer.
Oui, mais c'est une mise en garde.
Voilà, mais par contre, le tout étant de savoir, par contre, sachant qu'il ne pourra rien changer, comment il va réagir? Est-ce qu'il va réagir justement en humain, ou est-ce qu'il va réagir en se dévorant les uns les autres, ou est-ce qu'il va faire sortir le meilleur de lui ou le pire dans ce chemin-là?
Estelle, il y aura 3 tomes de tes livres qui est là. Est-ce que tu imagines après pour écrire quelque chose où il n'y ait pas d'animaux?
Oui, d'ailleurs, j'ai hésité. Je dirais même plus, c'est que les suites auxquelles j'ai pensé pour le moment, enfin les autres séries auxquelles j'ai pensé pour le moment, il n'y en a aucune avec des animaux. Étrangement, en fait.
Jean-Luc.
Je suis en train de préparer. Il y a des guitares, il y aura des animaux, il y aura pas mal de dinosaures. Je suis en train de sortir l'auberge entre les bons. Alors, il y a aussi des animaux dedans, des trucs assez marrants d'ailleurs. Et bon, après, je suis en train de préparer le prochain qui va sortir, qui va être un pape pour l'apocalypse. Et là, on est plutôt sous le polar ésotérique, donc il n'est pas tellement question d'animaux.
Je réfléchis à quelque chose qui n'est pas d'animaux. En fait, il me semble que dans 100 lunes, qui est ma dystopie, c'est un monde souterrain, j'ai quand même réussi à passer des animaux, il y a des moutons. Il faut juste passer, c'est des petits moutons bleus tout mignons, voilà. C'est quand même peu de chance pour que j'écrive quelque chose sans animaux qui au moins ne fait que passer juste pour faire coucou. Quoi. Alors oui, dans l'une des longues, donc il y a une trilogie, alors oui, il y a des animaux, il y a des lions, puisque de toute façon c'est des univers de peintre, c'est spécifiquement de femmes peintres. Il y a en premier Rosa Bonheur qui a peint à la fois aux chevaux, qui
ça. Et après, j'ai un roman qui va se passer à la Nouvelle-Orléans, on va voir peut-être un petit alligator, parce que bon, c'est local. Mais je dirais qu'ils ont leur importance, mais pour moi, ce qui prévaut, c'est l'humanité. Donc, les animaux font peut-être un effet miroir sur l'humanité, plus que. Ou sont peut-être très humains et on est leur miroir, je ne sais pas, mais c'est ce qui prime pour moi.
Parce que je suis un peu bête à l'écrise, des fois, pour très bien. Et en fait, ce que je trouve assez drôle dans ce que tu dis, c'est qu'à chaque fois, dans tes mécanismes narratifs, les animaux ont une place mineure au départ, et quand tu. En tout cas, pour Cœur Sauvage et Détroit, ils ont une place qui devient et miroir et salvatrice, je pense, au people qui sont elles. Personnages sont gourés complètement et c'est vraiment venu avec des discussions et avec.
La mule au début de ce bol, elle sert juste à temps. Bon, c'est important que c'est le père du héros qui meurt, mais c'est juste de passage. Hein.
C'est pratique là pour un gladiateur d'avoir un couple sur scène qui se relance à deux ans à intervenir. Insectes, loups, ours, un peu toutes sortes, y a-t-il des animaux que vous ne mettriez jamais dans votre ménagerie?
Non, il y a les animaux que j'aime, j'ai mis un trois des orques tout à l'heure, je les ai mis. Ceux que j'aime pas, j'ai aucun animal que j'aime pas, mais je dois avouer que j'ai pas un amour particulier pour les araignées, mais par contre, elles me fascinent. Donc, je les ai aussi.
C'est pas la même chose, je pense qu'il y a une question d'espoir et de matière et de. Non, je crois que ce serait absolument impossible. Même, faut penser. Alors, Arachnaï, qui effectivement est une ville, il y a un monde d'araignées, mais Arachnaï, sans ses petites araignées, sans ses cafards, sans ses trucs répugnants et tout ça, ça serait pas. Ça donne de la vie. Non, je pense que ça serait carrément pas possible.
On va pouvoir revenir au titre de ce café littéraire. C'est vrai que les animaux ne sont pas toujours nos amis.
Bon, ben, je pense quand on voit les gens courir parce qu'il y a une guêpe qui les colle, dans le cas-là, à mon avis, il serait assez d'accord avec ça.
Non, je parle dans vos livres aussi, là.
Ben, dans les livres, il y a des insectes qui ne sont pas forcément nos amis. Pour eux, on est des steaks sur pattes. Clairement, voilà, les animaux ne sont pas toujours nos amis.
Un beau steak.
Oui, on va dire que par exemple, la mouche n'est pas notre amie. Les mouches sont responsables de je ne sais pas combien de millions de morts par vecteur de maladie. Pas directement, mais vecteur de maladie, etc. C'est peut-être la mouche et peut-être les gens ont l'impression que la mouche est assez inoffensive. C'est peut-être notre pire ennemi. Si on doit avoir un ennemi dans un animal, c'est peut-être la mouche.
Je dirais qu'ils n'ont pas forcément de raison d'être nos amis. Et qu'ils ont leur propre logique et qu'on a tendance à se mettre un petit peu en haut de la chaîne alimentaire et l'espèce dominante, mais il n'y a pas de raison. Là, je suis en train d'écrire un roman de fantasy, hein, qu'il y a des espèces d'hybrides, je ne sais pas, j'écris des hybrides entre des lézards et des scorpions. Ce n'est pas nos amis, clairement, ce n'est absolument pas nos amis, mais ce n'est pas les amis des humains, mais ce n'est pas non plus les amis des dromadaires, ni des chevaux.
passe vraiment dans toutes les directions, toutes les dimensions, quoi. C'est assez extraordinaire. Donc voilà, ce sont des animaux fascinants. C'est des animaux, on a fait le film avec les chamanistes, orca, sur les animaux qu'on dit cruels, quand même.
Non, en fait, d'ailleurs, c'est assez plaisant aussi, parce que là, on le voit, elle est fière, justement, on le vengeur, etc. Alors qu'en fait, il y a quasiment, on n'a quasiment pas de traces de. On n'a quasiment pas d'attaque mort que sur des êtres humains.
Alors, c'est un peu comme les requins, en fait. C'est comme n'importe quel animal quand on va sur leur territoire et qu'on s'agit de détecter les mauvais codes, on se fait croquer, quoi.
J'ai vu Jaws, et ça ne me faisait pas plaisir, quoi. Enfin.
D'une femme, ça se passe aux États-Unis, qui est très desperate housewife, donc qui gère sa journée, qui n'a pas d'enfant, qui désespère parce qu'elle n'a pas d'enfant, mais en fait elle n'en veut pas, donc ça reste complètement peut arriver, et qui du jour au lendemain, enfin, revient à l'enterrement de sa mère, aperçoit un palomino galopé dans un pré, et en fait du jour au lendemain, claque tout, part dans un ranch, s'initie à l'équitation, achète un cheval et part. Voilà, et donc.
C'est une charlotte appelée cheval. Est-ce que vous vivez avec des animaux? Moi j'ai un chat. Un chat aussi, charlotte et ça vient.
On a entendu le secret des voix dernier ensemble. On a un chat, un lapin et trois chevaux.
Et est-ce que